j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 11e édition des Silly d'or de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 27 avril au Théâtre Fairmount, dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silly d'or, d'argent ou de bronze. Prenez part au Silly d'or, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, sillydor.com.
Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil pour un vin. Je cherche un vin surprenant, jeune, avec une finale émergente.
Oh, je travaille pas ici, madame, mais ce que vous cherchez, c'est le festival Vue sur la Relève.
Ah, oh, je le connais pas, celui-là.
C'est un festival qui va avoir lieu du 9 au 20 mai à Montréal. Il y a du théâtre, comme la pièce Petit crime contre l'humanité, de la danse, de la musique.
Wow!
Il y a aussi des parrains de soirée, Karim Ouellet, Valérie Blais, Gazeline. Le tout en collaboration avec Québécois.
Je vais en prendre deux bouteilles.
Oui, mais madame, je travaille pas ici. Pour les billets, allez sur vuesurlarelève.com.
60 minutes de bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14h sur choc.ca avec votre émission Du Coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Le Jobba, le Jobba, le Jobba,
le Jobba. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. La musique au rendez-vous.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à tous nos auditeurs, vous écoutez la photomédia sur les ondes de choc.ca. Ce soir à l'émission, on fait comme un petit tour d'horizon, un petit tour du monde par rapport à la situation du journalisme dans plusieurs régions. Aujourd'hui à l'émission, nous avons Édouard Germain ainsi que Ryan Roumiguière. Bonsoir.
Salut, salut.
Salut.
Et nous avons aussi Étienne Tardy-Paradis, avec lequel je me suis entretenu un peu plus tôt, sur la situation du journalisme aux États-Unis. On écoute ça.
Donc ce soir, Étienne Tardy-Paradis, toi tu nous parles des conditions difficiles des journalistes aux États-Unis.
Oui, absolument. Donc bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais remercier les journalistes québécois de rendre quotidiennement honneur à leur profession, une profession qui malheureusement est malmenée à travers le globe. Alors merci énormément au Journal de Montréal de bien vouloir attirer notre attention sur des sujets d'une importance capitale, avec des articles tels que « Un orignal secouru dans une piscine »,« Le voleur lui renvoie les cendres de son fils » ou encore « Deux chiens bien élevés ont attaqué leur maître ». Il s'agit d'un excellent moyen d'utiliser sa liberté de presse. Et cela en sachant qu'une augmentation de 35% des emprisonnements de journalistes professionnels a été enregistrée en 2016 par Reporters sans frontières. Toujours selon les mêmes ONG, les exactions commises à l'encontre des journalistes à travers le monde sont en croissance continue et annonciatrices de temps mauvais.
Et est-ce que cette tendance est une réalité dans toutes les régions du monde?
Eh bien non, elle caractérise principalement les zones de guerre, les régimes autoritaires et à tendance totalitaire. Toutefois, il est fort intéressant de regarder du côté américain, alors qu'aucune de ces situations s'applique. D'emblée, j'aimerais préciser que malgré le fait que Donald Trump soit un misogyne notoire, un raciste à temps partiel, un climato aveugle, une création médiatique et un grand gestionnaire fiscaux, les États-Unis offrent des conditions relativement bonnes au journalisme. Mais la question est pour combien de temps encore? Cette question est d'autant plus pertinente lorsqu'il est question d'analyser la relation entre le président des États-Unis et le journalisme. Voici quelques exemples de celle-ci. Au lendemain de son investiture, le 45e président déclarait « Vous le savez, cela fait un moment que je suis en guerre contre les médias. » Il s'agit d'une première dans l'histoire des États-Unis, car jamais un président n'avait démontré autant d'hostilité envers les médias. C'est également une première pour les journalistes, manifestement surpris d'apprendre qu'ils étaient en guerre. Les accusations contre les journalistes ont toujours été présentes dans la carrière de Donald Trump. Cependant, maintenant qu'il est président, ces dernières ont beaucoup plus de poids. Alors, lorsqu'il déclare que la presse ment et que les journalistes sont les gens les plus malhonnêtes sur Terre, il est fort possible que ses propos aient un impact sur la population américaine. Une perte d'influence des médias américains comme quatrième pouvoir serait fort dommageable pour la démocratie américaine, et ce, encore plus en sachant que l'administration américaine utilise des faits alternatifs pour expliquer leurs décisions dans certains cas. Dans cette optique, le rôle des journalistes est essentiel. La problématique qui est soulignée ici, ce n'est pas que les journalistes aux États-Unis travaillent dans des conditions difficiles, mais plutôt que la dynamique qui est en place pourrait mener à une grande détérioration de leur réputation auprès du grand public. Le risque est important et ce n'est pas trompe-l'œil. Émilien, vous qui êtes journaliste aguerri, quelle est votre pensée sur ces risques?
Ouh, journaliste aguerri, c'est flatteur. Ben écoute, Étienne, moi je pense que le journalisme vit une très grande transition en ce moment. Je pense que le format évolue énormément. On parle d'un côté d'une évolution phénoménale, d'une apparition de nombreux médias citoyens, de médias alternatifs, qui s'inscrivent pas dans ces logiques de grands conglomérats médiatiques. Mais il y a aussi ces grands centres de presse qui veulent s'adapter aussi. Ne serait-ce qu'avec la Presse Plus, par exemple, qui est un nouveau modèle presque exclusivement publicitaire, mais aussi on voit, par exemple, le Wall Street Journal qui a décidé de dépenser sans compter pour un bureau d'enquête sur les agissements du président Trump et qui, au lendemain de cette annonce-là, a vu son nombre de membership exploser dans les dernières semaines. Donc, je pense que c'est très intéressant de voir ce qui va se produire. Est-ce que Trump, c'est comme un coup de pied dans un nid de guêpes? Est-ce que ça va entraîner des changements intéressants? Je ne sais pas ce que tu en penses.
Très bonne question. D'ailleurs, c'est pourquoi je voulais apporter cette chronique aujourd'hui. L'impact de Trump, évidemment, est très, très, très grand, très large, parce qu'on parle ici du président des États-Unis, donc qui a des pouvoirs immenses. Alors, si le président dit un jour quelque chose, c'est répété peut-être 1000, 2000, 3 millions de fois à travers les médias. Donc, forcément, un mensonge répété devient une vérité. Peut-être que la population va croire des choses qui, normalement, ne sont pas vraies. Est-ce que des médias alternatifs seraient capables de vraiment constituer un quatrième pouvoir? Je ne dis pas ici qu'il n'y existe plus de quatrième pouvoir aux États-Unis, que le journalisme n'existe plus. Je crois que, par contre, il y a une menace sérieuse, que ce soit des médias indépendants ou que ce soit des médias classiques, conventionnels. Je pense que la peur est présente. Il faut faire vraiment attention et d'autant plus donner de l'énergie à surveiller les agissements de Trump.
Oui, surveiller ses agissements et pas lui demander qu'est-ce qu'il pense des séries éliminatoires du hockey, comme notre chère vedette l'a fait la semaine dernière en lui demandant si c'était les... S'il demandait à Sean Spicer, le Secretary of Press, s'il préférait les Rangers ou les Capitals. Donc, peut-être un manque de pertinence de ce côté-là, mais c'est ça. Donc, l'apparition de médias alternatifs, évidemment, il y a des médias d'extrême, on en a parlé dans les dernières semaines, donc il y a toujours ce risque-là. Le média citoyen, il y a des gens avec des idéologies très, très marquées, que ce soit dans l'extrême gauche, dans l'extrême droite, qui vont véhiculer des informations très, très teintées. Donc, c'est intéressant de voir vers quoi ça s'enligne, tout ça.
C'était Étienne Tardy-Paradis avec qui je m'étais entretenu un peu plus tôt. On va se quitter quelques petites minutes avec une chanson de l'artiste Bengal, le titre de la chanson « Republica ».
Les eaux magiques du delta, les eaux magiques du delta, tu voyages d'illusions stagnantes en horizon nouveau,
faire dos. Nos petites ombres sur les murs ressemblent à des éoliennes.
Venez d'écouter la chanson Republica ou Republica de l'artiste Bengal. On salue Charles Lemieux, DJ Charles Lemieux, qui fait le choix de la musique, qui n'était pas des nôtres à l'émission, qui travaille souvent dans l'ombre. Tu t'es surpassé, Charles. C'était vraiment une très bonne chanson. Maintenant, en deuxième partie d'émission, nous avons Ryan Roumiguer qui va nous parler de la situation en Érythrée parce que on n'en entend pas assez parler.
Exact.
En fait, tu vas un peu nous expliquer pourquoi.
Ouais, c'est ça. Bon, en fait, je veux juste revenir un peu sur le rôle des médias, vite fait, dans nos sociétés. Donc, en fait, ils sont considérés comme étant le quatrième pouvoir. Donc, ils nous permettent justement de remettre en question l'évolution et les mœurs des pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs de nos gouvernements et donc de notre société. Il est donc nécessaire, à mon avis et à l'avis de beaucoup de monde, que la presse puisse jouir d'une certaine liberté d'expression pour remplir ce rôle. On peut facilement voir que d'une société à l'autre, cette notion de liberté varie. D'ailleurs, Reporters sans frontières s'est amusé à comparer et à classer 180 pays selon les libertés qu'ils accordent à la presse. Ils se sont basés sur ce qu'ils appellent l'indice de la liberté de la presse.
Laisse-moi deviner, l'Érythrée se classe pas très haut dans le dans l'indice. Comment est-ce qu'il fonctionne d'abord cet indice-là?
Alors, il fonctionne assez simplement. Par exemple, si le pays a un score de zéro, cela signifie que la liberté d'expression est totale et sans contrainte. On peut vraiment tout dire sans avoir peur d'être réprimandé. À l'inverse, un score de 100 équivaut à une répression totale. La presse n'existe presque plus. Les critères de comparaison sont par exemple le nombre d'atteintes directes contre les journalistes, les règles juridiques et les normes de diffusion sur le net. Sans grand étonnement, nos amis scandinaves occupent le top 5 du classement, avec des scores aux alentours de 8-9. Nous, Canadiens, nous sommes assez bien classés. On est 18e au classement, soit une vingtaine de places avant les États-Unis quand même. C'est assez conséquent. Oui, donc, le dernier pays, le pire pays selon Reporters sans frontières, en matière de liberté d'expression, c'est donc l'Érythrée. Donc ce petit pays situé sur la corne est de l'Afrique et entouré par la République de Djibouti, le Soudan et l'Éthiopie a été nommé le pays le plus répressif en matière de liberté de la presse depuis près de 8 ans. En 2016, il avait un score de 84 sur 100. Je rappelle encore que 100, c'est la répression totale. Étant donné que le pays est fermé médiatiquement, il est difficile de savoir ce qu'il s'y passe réellement. Le dictateur Isaias Afewerki a d'ailleurs interdit, il y a maintenant 16 ans, l'existence de la presse libre.
Ah, quand même.
Eh oui.
C'est gentil de sa part.
Oui, donc il n'y a même plus place aux médias d'opposition, en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre 2001, le parti de l'opposition et certains journaux indépendants ont critiqué le régime de Afewerki et ont demandé la tenue de nouvelles élections libres. Suite à quoi, ils se sont fait emprisonner sans aucun jugement et sans aucune charge à Asmara, qui est la capitale. Parmi ces journalistes, on retrouve Dawi Isaac, qui a reçu le prix de la liberté de la presse cet avril et qui a fondé le premier journal indépendant en Érythrée qui s'appelait Sétit. Sur 11 des journalistes emprisonnés, 7 sont morts et on n'est pas vraiment sûr en fait de l'état de santé des quatre autres.
Ouf, c'est dur.
Ouais, c'est impressionnant, je trouve. Et j'ai également trouvé le témoignage anonyme d'un journaliste érythréen qui s'est exilé. Donc il a dit, je cite, « À chaque fois qu'un journaliste a dû écrire un article, les autorités fixent les thèmes des interviews et vous disent quels sont les angles spécifiques que vous devez traiter. »
Oh, mais c'est gentil, ils font déjà la plus grande partie du
c'est
travail.
Ça, on n'a même plus à travailler.
Pourquoi pas?
Donc, ouais, il se passe vraiment des choses super importantes là-bas et on n'est vraiment pas au courant. L'ONU a publié un rapport sur la situation en Érythrée en juin 2016. Figurez-vous que l'esclavage est encore d'actualité là-bas. Cette fois-ci, c'est de l'esclavage entre Érythréens, de l'esclavage entre personnes de couleur. En fait, la population est obligée de participer à un programme de service militaire à durée indéterminée. Donc, travaux forcés, esclavage sexuel, travaux domestiques et j'en passe sont de mise. Et le contrôle de l'information est tel que le gouvernement a même créé un ministère de l'information, ce qui est quand même... Voilà.
Oui, ministère de l'information, ça sonne régime fasciste.
Exactement. Et moi, je me pose la question, pourquoi on n'est vraiment pas au courant de ce qui se passe là-bas? Parce que j'ai peut-être une piste, en fait. L'Érythrée n'est pas si étrangère au Canada. Depuis 2010, le Canada collabore avec le gouvernement érythréen dans un projet d'extraction d'or et d'argent. Donc peut-être qu'on n'en parle pas, enfin... parce que c'est plus arrangeant comme ça de garder le gouvernement comme ça.
Ah, les intérêts économiques.
Exact.
Beaucoup de pays avec des situations très dures envers les journalistes, la liberté de presse, mais aussi les libertés individuelles, dépendamment de leur lien économique avec les pays dits plus libres, disons. On dirait qu'ils ont davantage de passe-droit, disons
exactement
ça comme ça.
Ça.
Arabie Saoudite.
Voilà, je terminerai juste par dire que cette fois-ci, à mon avis, c'est de notre faute, nous, les médias occidentaux, qui sommes dans des pays où la presse est plutôt libre, d'aller chercher ce genre d'informations et d'informer le plus grand nombre possible. C'est notre rôle de diffuser massivement ces informations, de les rendre accessibles et compréhensibles pour tous, de les mettre en relief pour faire évoluer les choses. Il faut que la communauté internationale se sente concernée, étant donné que la presse érythréenne ne peut s'exprimer par elle-même.
Merci beaucoup, Ryan. Dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que c'est la faute aux médias, mais c'est pas la faute de la faute aux médias, parce qu'ici, on en parle.
Ouais, ça, c'est cool.
Donc, on fait déjà un petit début d'exercice d'éducation populaire. Donc, on va essayer de suivre la situation en Érythrée, et puis on vous en reparlera. Merci beaucoup, Ryan.
Merci.
Donc toi, Édouard, en dernière chronique, tu nous parles de la situation... Excuse-moi, je me souviens plus de où tu nous parles. Tu nous parles du Mexique, nos deuxièmes voisins après les États-Unis.
Exactement. En fait, je parle de l'état de la peur. Et l'état de la peur, ça vient pas de moi. En fait, c'est pas mon expression. C'est dans c'est Reporters sans frontières qui a publié un rapport intitulé « Veracruz, les journalistes face à l'état de la peur ». Le Mexique, c'est le 149e pays sur 180 au classement mondial de la liberté de presse, selon Reporters sans frontières. En fait, c'est le pays où il y a le plus de meurtres de médias en Amérique latine, de meurtres de journalistes, en fait, en Amérique latine. Par exemple, là, on dénombrait 11 meurtres de journalistes au Mexique en 2016, ce qui, en soi, constitue un record, selon le même organisme. Pour vous donner même un exemple que les choses vont pas nécessairement s'améliorer, au mois de mars 2017, on déplorait déjà 2 tentatives de meurtre et 3 assassinats de journalistes seulement pour cette période-là. Donc,
Ouf, c'est assez intense. Est-ce que on a une idée plus précise de quelles régions du Mexique sont plus dangereuses que d'autres? Est-ce que c'est plus dangereux près de la frontière? Est-ce que c'est plus dangereux dans des états plus ruraux?
Ouais, ben en fait, on parle plus particulièrement de l'état du Veracruz, comme j'ai dit tantôt, en fait, en début de le nom du rapport, là. Pour donner une idée aux auditeurs, là, cet état-là, il se trouve au sud du pays. C'est un peu plus proche de la frontière avec le Guatemala et le Belize. C'est justement, en fait, sur cet état, bon, c'est ça que le rapport que je parlais tantôt, il parle de ça ici, parce qu'en fait, pour Reporters sans frontières, les journalistes dans cet état-là, ils évoluent dans une espèce d'environnement qui est très délicat pour eux, puisque il y a d'un côté, il y a les cartels de la drogue qui sont très, très présents, puis de l'autre côté, il y a une classe politique qui est ultra corrompue. Donc, c'est pas tellement facile après ça pour les journalistes de venir mettre le nez, de venir jouer un peu dans ce qui est plus... dans ce qui est plus problématique, parce que le risque qui court à ce moment-là, c'est soit d'essuyer des menaces, de manger des coups, ou simplement d'être cruellement exécuté. Donc ça donne pas le goût.
Oui, ces gens-là risquent leur vie à tous les jours.
Oui, exactement. Puis des meurtres dénombrés au Mexique, on parle de journalistes là, toujours, entre 2000 et 2016, 20% ont lieu dans cet état, donc l'état du Veracruz, comme je vous disais. Puis là, on parle même pas d'agression, de disparition. Bref, en tout cas, c'est pas une région dans laquelle moi j'aimerais exercer le métier personnellement.
Ouais, on est quand même pas mal loin des cas d'espionnage de journalistes par le SPVM et la SQ, sans rien vouloir enlever au sérieux de cette affaire-là.
Ouais, ouais, ben en fait, on va pas non plus tomber dans un relativisme, mais je dirais quand même que quand on se compare, on se console, dans ce cas-ci, en tout cas. Mais c'est surtout que quand on pense aux moyens qui sont utilisés par les policiers là-bas pour faire taire certaines histoires, moi, je dois vous dire que non, encore une fois, on se console.
Oui, mais c'est tout un contexte sociopolitique qui est différent aussi. Là. Oui. C'est sûr, dans le top de pays où il y a le plus de liberté de presse dont parlait Ryan tout à l'heure, c'est des pays riches qui accordent la liberté de presse.
Oui.
Il y a vraiment un démarquage assez net à cet endroit-là. Donc, c'est pas juste une question de différence ou de culture. Non, non, c'est une question aussi de contexte sociopolitique et économique.
Oui, en effet, effectivement.
Mais puis les policiers, comment est-ce qu'ils font pour réprimer ces nouvelles-là? Est-ce qu'ils utilisent des matraques? Est-ce qu'ils utilisent du poivre, de cayenne? Que font-ils?
Non, là, Émilien, tu te trompes. Je pense que tu te mélanges ça avec le sort des journalistes à Montréal. C'est sûr qu'ils s'approchent un peu trop proche des
manifestants.
Ouais, ouais.
Des gratuits de guitare de l'UQAM.
Des méchants gratuits de guitare de l'UQAM. Ils sont tellement méchants, on les aime tellement pas. ici, c'est de l'ironie, hein, faut lire. Bref, au Mexique, c'est pas mal plus trash que ça. Puis moi, j'ai trouvé un cas, justement, le cas de Martin Mendez Pineda, qui est un journaliste mexicain qui, jusqu'à tout récemment, travaillait pour le Novedades Acapulco, dans l'état de Guerrero. Encore une fois, un petit mot sur cet état-là. On parle de Reporters sans frontières, dit que c'est un des états du Mexique qui est extrêmement violent, encore une fois, extrêmement dangereux. Entre 2003 et 2017, 11 assassinats, une disparition de journalistes ont eu lieu dans cet état-là. Encore une fois, c'est vraiment pas le meilleur endroit pour pratiquer le métier. Mais bref, si on revient à nos cochons, si je peux me permettre le petit calembour. Le 22 février 2016, après avoir couvert des arrestations violentes menées par des agents de la police fédérale lors d'accidents de la route, M. Pineda est insulté puis agressé par ses sympathiques agents fédéraux. Puis ça s'est pas arrêté là, en fait. Il a été menacé de mort par des individus armés devant son domicile. Donc, devant la situation, en fait, je pense qu'il n'y a pas eu d'autre choix que de fuir les États-Unis au début de l'année 2017, et sans possibilité d'y retourner, là, bien entendu.
Donc, il a fui plutôt le Mexique.
Le Mexique pour les États-Unis, pardon.
Bon, le home of the free, home of the brave.
Ouais. Ouais.
Mais avec Trump, c'est pas si jojo.
Non, effectivement. Puis c'est un petit peu ça le problème, en fait. Il a toujours pas eu de réponse pour sa demande d'asile politique. En fait, ce que Reporters sans frontières dénonce, c'est que ça fait 60 jours qu'il est retenu dans un centre de détention à El Paso, au Texas. De rétention, pardon, pas de détention, mais de rétention. Mais c'est pas loin dans ce cas-ci. Puis en fait, selon son avocat, il est enfermé dans des conditions qui sont assez déplorables. Il a passé certains tests, là, on me disait sur le site, qui comme quoi il avait passé le test de le danger légitime. Mais il est toujours détenu là. Puis en fait, Reporters sans frontières demande aux autorités états-uniennes d'autoriser l'entrée sur le territoire à Martin Mendez Pineda. Puis il y a d'ailleurs une pétition qui, nous, on a mis en ligne sur la page Facebook de la photo média, pardon, que j'ai signée et que je vous invite, vous également, à faire, parce que c'est quand même assez important. Mais en terminant, j'aurais une petite réflexion là, comme ça. Moi, je me dis, quand on regarde les pratiques d'administration Trump, puis là, Étienne en parlait d'ailleurs dans sa chronique au début, quand on regarde la façon dont Trump deal avec les médias, si vous me permettez l'anglicisme, j'ai un peu l'impression que le journaliste mexicain, même s'il réussit à entrer en terre promise, dans cette grande terre de home of the free, peut-être qu'il va se retrouver aussi dans un autre état de la peur, le même état de la peur qu'au Mexique.
On va suivre l'évolution. Moi, j'avais une petite question pour vous deux, parce que ça m'est venu un peu en début d'émission, quand on parlait justement de ces endroits où il n'y a pas de liberté de presse et où les politiques fournissent aux faux journalistes, disons-le, des lignes de com et les questions qu'ils vont devoir leur poser, etc. On peut peut-être faire un petit parallèle entre ça et puis les agences de presse aujourd'hui, quand il y a des communiqués de presse qui sortent puis que les journalistes sont si peu dans leur salle de presse puis doivent utiliser mot pour mot des communiqués de presse pour faire des nouvelles dans des journaux. Il y a une problématique aussi.
Oui, moi, en tout cas, moi, de mon côté, je suis d'accord, sauf qu'on a l'impression que la problématique, on va parler d'une contrainte de, on va parler d'une contrainte de temps, une contrainte d'espace, un peu moins, on parlera pas nécessairement que c'est parce qu'on veut relayer l'information comme une propagande, mais c'est sûr et certain, c'est ça, ça va toujours être la même chose si on pose la question aux gens qui travaillent dans les médias, c'est, ils vont vous dire, c'est parce qu'on n'a pas le temps, c'est parce qu'il y a pas, il y a un manque de moyens, puis ça, c'est toute une autre question, en fait, c'est peut-être même le futur thème d'une émission, hein, qu'on vient de trouver là.
Oui, on pourrait. Ryan, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, c'est vrai que relayer là, les informations comme ça qui sortent des agences de presse, bah, c'est sûr que, comme tu disais, Edouard, c'est à cause du temps, ça facilite beaucoup, on gagne beaucoup de temps et tout, mais c'est vrai que est-ce que c'est toujours légitime ce qu'ils racontent là-dedans? Il y a de quoi se poser la question. Mais en même temps, c'est pareil. Dans ce cas, est-ce que le gouvernement, il dit toujours la vérité tout le temps? Même quand il fait des interventions publiques, on ne sait pas. Mais bon.
Bon, on a vu des cas, il y a eu plein de cas. Là. On peut penser par exemple juste à l'Irak, là, l'invasion américaine. Toutes les informations avaient été, en fait, étaient sorties par des journalistes. C'est une journaliste, je ne me trompe pas, qui était au New York Times à ce moment-là. Puis
elle se faisait fournir des informations par des contacts, ouais. Mais c'était des fausses informations juste pour influencer l'opinion publique.
Il faut être vigilant, moi j'ai l'impression.
Il faut être vigilant, puis c'est un peu le rôle de la photomédia. C'était tout le temps dont on disposait. Je vais vous remercier encore d'avoir été là, Édouard Germain et Ryan Roumillière.
Bonne soirée, bonne game hein, ce soir, les Canadiens.
Bonne game, oui, c'est ça. Canadiens en combien?
En 7, moi j'avais dit.
En 7? Ouais. Si vous ne le voyez pas, les téléspectateurs, les auditeurs en fait, vous n'êtes pas de téléspectateurs justement, mais Édouard affiche fièrement ses couleurs avec son chandail du Canadien.
Ouais, mais j'endosse pas Richard Latendresse par contre.
Pas Richard Latendresse.
Non, pas ce qu'il dit, non.
Moi je trouve que Kovalev, c'est le meilleur joueur du Canadien en ce moment. Sur ça, on va se laisser avec une petite chanson, Hair Slick Back, de l'artiste Sneak.